chapitre 2. Les fêtes devenaient vite sauvages quand du sang avait été versé pendant une expédition. Dekin n'aimait pas trop les beuveries, mais il laissait la bière et l'eau-de-vie couler à flot pour célébrer les opérations réussies. Alors, quand la nuit tomba et que le cochon à la broche ruisselant de graisse atteignit le point de cuisson idéal, nous laissâmes libre cours à nos joies et à nos rancœurs. Au fil des ans, j'ai fini par comprendre que ce genre d'événement était une nécessité dans la vie d'un hors-la-loi. C'était l'occasion de rire, de se quereller et de chanter sous l'emprise de la boisson et des divers produits stupéfiants que nous avions sous la main. Je me demande toujours comment on peut penser à ce ramassis de dépravés avec tant de nostalgie et de tendresse, mais c'est pourtant bien ce qui se passe lorsque je vois leur visage défiler dans ma tête. Gert, qui arrivait juste après Laurine en tant qu'objet de mes fantasmes pervers, souriait et ses joues rebondies frémissaient tandis qu'elle troubillonnait en faisant voler ses jupons. Le forgeron Justan et le crocheteur Yelk, les amants les plus dévoués qu'il m'ait été donné de rencontrer, dansaient à ses côtés. Ilbès était là, elle aussi vieille et ridée. Elle était capable d'évaluer la qualité d'une pièce d'or ou d'argent en la mordant de ses dents jaunies et en passant sa langue dessus. Elle gloussait en fumant une pipe avec graisse. Le Caeris était un homme renfermé, mais dans ce genre d'occasion, il se montrait serein et affable. Il avait une pipe sculptée qu'il partageait volontiers avec les hors-la-loi rassemblés autour de lui. Les hors-la-loi qui, au fil de la nuit, sombreraient dans le néant invoqué par les vapeurs de l'herbe qui se consumait dans le fourneau. À la frontière du cercle de lumière du feu de camp, Foissier et Ficelle, nos meilleurs archers, étaient fort occupés à se jeter des regards noirs, prélude à une bagarre imminente. Entre bandits, la violence était inévitable lorsque l'alcool déliait les langues et ravivait les souvenirs d'anciens affronts. Dekin nous imposait cependant de garder nos couteaux et autres armes dans leurs fourreaux, si bien que les blessures graves et les morts étaient rares. En regardant les deux archers se menacer en agitant le doigt sous le nez de l'autre et en parlant de plus en plus fort, je songeais que l'échange se terminerait sans doute par un bref pugilat et quelques ecchymoses. Ils s'agripperaient et rouleraient par terre jusqu'à ce que, agacés par le bruit, Res ou un des lieutenants les plus redoutés se lève et les sépare. Au petit matin, les deux archers seraient redevenus amis et plaisants.